Nous avons confié à Marinette Matté la tâche de ce travail de synthèse de notre journée d'études. Marinette est sociolinguiste, didacticienne des langues, je dis pas de bêtises,
si tu veux,
et travaille à l'université de Grenoble et est rattachée au laboratoire de l'IDILEM. Je n'ai pas dit de bêtises ?
Non.
Bien, à toi Marinette, merci.
Merci beaucoup, puis merci beaucoup de m'avoir confié cette tâche que j'ai eu l'intrépidité d'accepter, j'aurais jamais dû, parce que maintenant voilà, faut le faire. Donc, je ne ferai pas long parce que... Alors, j'ai prévu de parler de quatre choses, enfin j'ai essayé de rassembler toutes les réactions que j'ai eues pendant cette journée et où je me suis empêchée de parler parce que je me dis, t'auras le temps de parler à la fin, donc je ne pose pas de questions, je ne réagis pas. J'ai essayé de faire un petit bouquet et de gerber tout ça en quatre points et que je vais vous proposer maintenant. Alors, le premier de ces points, la première réaction que j'ai, alors ça, c'est vraiment par rapport aux données, aux présentations des travaux de recherche qui ont été faits ce matin, c'est à quel point, en fait, tous les acteurs d'un système éducatif sont des acteurs situés, chercheurs compris. Parce que c'est incroyable, à travers simplement la présentation des données, à quel point on se rend compte des régimes linguistiques différents qui existent, en l'occurrence entre la France et la Catalogne. C'est flagrant, quoi. Je crois que ça a sauté vraiment aux yeux de tout le monde. Et le fait de présenter, par exemple, moi ce qui me frappe beaucoup dans cette séquence à l'école maternelle, c'est de voir à quel point les enfants sont verbocentrés. C'est-à-dire que pour moi, c'est extrêmement... curieux que des enfants de 4 ans spontanément disent, 5 ans, disent c'est dans le livre ou à l'intérieur du livre. Donc, en fait, mettre en place cette démarche paradigmatique sur le langage, hein, où on va chercher des synonymes, je trouve ça extrêmement étonnant. Alors, c'est vrai que c'est avec la maîtresse et tout, mais on sent, pour moi, c'est vraiment l'indice qu'il y a un travail très fort sur le langage qui est fait, et un travail que j'appellerais vraiment verbocentré. Alors que dans les données qui sont présentées par Lucie, l'enjeu est autre. L'enjeu, c'est de parler d'oxygène, si j'ai bien compris. Il y a quelque chose qui, je ne sais pas savoir, avec la photosynthèse. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la fillette qui verbalise ce qu'il y a sur l'écran, elle parle français, mais elle dit les connecteurs en espagnol. Elle dit « i », elle ne dit pas « e ». Vous allez me dire « i » et « e », ce n'est pas très, très éloigné, mais n'empêche qu'elle prononce ses ponctuateurs en espagnol. La maîtresse ne corrige absolument pas. Alors que la maîtresse dans l'école maternelle, quand la petite dit « j'ai parti », elle corrige « je suis partie ». Donc, je pense que c'est vraiment des attitudes extrêmement différentes par rapport à la langue, par rapport à ce qui se passe, et que c'est ce type d'événements, de micro-événements, qui finalement vont construire des postures par rapport aux langues chez les élèves, même si ce n'est pas du tout conscient. Moi, je pense que c'est plus ce genre de situation, ce genre de situations qui ne sont pas réfléchies, où personne ne réfléchit, ni la prof, ni l'élève. Enfin, je veux dire, c'est pas, on ne parle pas de quelque chose, on fait quelque chose. Mais c'est en faisant quelque chose qu'on va développer des postures différentes chez les élèves. Et là, ce qu'on voit, c'est, on ne s'étonne pas qu'en France, on ait vraiment cette centration très forte sur le langage. Et moi, ça, en tant que Suisse, ça me frappe, parce que je suis persuadée qu'à l'école maternelle, on ne verrait pas enfin, vous avez peut-être aussi choisi vos exemples, hein. Mais évidemment, mais le voilà, absolument. Donc voilà, tout ça pour dire en fait que oui, ces régimes linguistiques, là aussi, je trouve extrêmement intéressant que ce soit le catalan qui soit donné comme input pour cette histoire de photosynthèse. C'est en catalan, c'est quand même pas un hasard. Et s'il y a une politique linguistique aussi admirable en Catalogne, c'est quand même parce qu'il y a une volonté très forte de retrousser la diglossie et finalement de faire que le catalan devienne la langue majoritaire dans le paysage linguistique de la Catalogne. Donc c'est pas simplement par ouverture aux langues en général qu'on met ce contenu scientifique en catalan, c'est bien parce qu'on veut que le catalan ait un statut fort dans l'école, hein. Voilà. Donc ça, je trouve très intéressant comment on voit, en fait, simplement en regardant des données quelques minutes, tout de suite, les régimes linguistiques qui se matérialisent, en fait, dans les deux situations. Ça, c'était mon premier point. Deuxième point, cognitif. On a pas mal entendu parler de cognitif, mais là, enfin, pour moi, ça reste vraiment quelque chose de très flou, parce que, de nouveau, ça m'a frappé d'entendre Violaine, dans ton intervention, que tu dis en fait que la maîtresse, quand elle commente la petite séquence du tapis où les gamins doivent raconter ce qu'ils ont fait le week-end, et qu'elle clôt cette séquence en disant « voilà, tout le monde a parlé, donc en gros on peut passer à autre chose », c'est que finalement c'est comme si on n'avait pas du tout... on n'avait rien appris dans cette séance, dans cette séquence-là. Enfin, c'est finalement, par rapport à tout ce travail cognitif paradigmatique, hein, où on cherche, où on fait de la réflexion métalinguistique sur les mots utilisés, etc. Mais là, pour moi, ça fait partie du cognitif. C'est-à-dire, ce qui passe à ce moment-là, c'est que c'est quand même lié à la démocratie, quoi. Quand on est dans un groupe, c'est quand même bien de faire attention que tout le monde puisse un peu parler. Et ça fait partie des règles d'utilisation du langage. Pour moi, c'est du cognitif, ça aussi. Mais évidemment, il est beaucoup moins valorisé par l'école. Parce que l'école, tel qu'on comprend les compétences langagières à l'école, c'est beaucoup plus le type de compétences qui sont montrées par cette petite qui donne spontanément des synonymes ou qui corrige ses copains. Troisième point, intégration. Là aussi, on en a pas mal parlé. Et là, je trouve que c'est quand même aussi... J'ai l'impression qu'il y a quand même toujours pas mal d'ethnocentrisme de tout le monde, parce qu'on considère que l'intégration, en fait, le problème, c'est tu parles pas ma langue, donc il faut que tu apprennes ma langue, d'où l'importance qui est mise sur la langue de scolarisation, mais aussi la conséquence que ça a, qui fait que le problème, il est pour l'élève. Ça, c'est à l'élève de... Bien évidemment que c'est à l'institution de faire en sorte qu'il ait plus de facilité pour rentrer dans la langue locale, qui est la langue de scolarisation. Mais on ne se pose jamais le problème inverse en disant « je ne parle pas ta langue, j'ai un problème ». Et ça, c'est une forme d'ethnocentrisme, d'une certaine manière. Parce que c'est une manière de bien montrer que l'intégration, ce n'est pas véritablement une acculturation comprise comme... on s'adapte les uns aux autres. Et le problème, il est entre le public et l'institution, et il n'est pas dans le public ou dans l'institution. Mais c'est vraiment une question de rapport entre les deux. Et j'ai l'impression qu'on met beaucoup aujourd'hui l'accent sur la langue de scolarisation, la maîtrise de la langue de scolarisation. Et je dois même dire que j'ai un peu souci, parce que personne n'en a parlé aujourd'hui. Mais je ne sais pas si vous avez lu le rapport de M. Esser, qui s'appelle Language Integration Migration, un truc comme ça, ou Integration, Sprache, c'est en allemand et en anglais, quoi. Il y a deux versions. Si vous tapez sur Google, vous tombez dessus. SR, ouais, E2SER. Et en fait, qui prend complètement le contre-pied de tout ce qu'on a discuté aujourd'hui et de tout ce qui paraît nous aller de soi pour nous, notamment ce qu'a dit De Pietro autour de Cummins, hein, les idées de Cummins, absolument pas cité dans ce rapport de SR. Et qu'est-ce qu'il dit, Esser ? Eh bien, il dit il faut arrêter avec le bilinguisme. On sait bien que le bilinguisme parfait, ça n'existe quasiment pas. Et que de toute façon, la plupart des gamins qui sont bilingues aujourd'hui en Europe, ils sont bilingues avec des langues qui n'ont aucune valeur économique. Donc, il faut, pour eux, c'est bien mieux finalement de faire des progrès dans la langue locale, parce que c'est que comme ça qu'ils trouveront du boulot. Je caricature à peine, hein, vous irez voir vous-même, etc. Bon, on n'en a pas du tout parlé de ça aujourd'hui. C'est un discours qui commence à prendre de l'importance dans l'Union européenne. La Suède, qui était championne de l'accueil des enfants de migrants et du respect des langues minoritaires, a changé de gouvernement aussi. C'est le balancier qui revient dans l'autre sens. Et ça correspond aussi à toute la politique européenne en matière de migration, où, évidemment, l'Europe essaye de tout faire pour ne pas se faire envahir par tous ces gens qui ne parlent pas des langues européennes. Donc, voilà, c'est les histoires d'intégration, je pense que là, on a peut-être pas mal encore de chemin à faire, mais justement, je crois, d'esprit critique à avoir. Hein, et je ne vois pas comment ce qu'on peut faire autrement qu'en étant critique et un peu militant quand on parle d'intégration. Parce que parler d'intégration en disant il faut que vous devez apprendre la langue de scolarité, la langue de scolarisation, et puis finalement il n'y a que ça qui prime, ben, c'est quand même une manière de répercuter une politique linguistique et de nouveau cette idée de régime linguistique. Donc quel régime on vit ? Voilà, c'était mon troisième point où je vais vite. Je voulais quand même dire ça sur ce qui me paraîtrait être un progrès extraordinaire avec la langue de scolarisation, c'est qu'on accepte qu'elle puisse être évaluée comme une L2, donc comme une langue seconde, pour des élèves qui fréquentent l'école en France, par exemple. Mais un élève qui turc qui arrive en France, il pourrait faire sa scolarité et on considérerait que le français, c'est pas la langue locale, la langue nationale, mais c'est sa L2. Et qu'à côté de ça, il y a le turc comme L1 et il peut... bon, ça, c'est complètement utopique, mais on pourrait imaginer, ça, ce serait vraiment le plurilinguisme en acte total. Voilà, que la langue de scolarisation, elle est L1 pour certains élèves, elle est évaluée comme une L1 et elle est évaluée comme une L2 pour d'autres. C'est possible avec le cadre européen. On pourrait dire ça, on fait C2 et puis on fait B2, voilà. Et justement, en parlant de B2 et de C1, etc., ça, j'arrive à ma dernière remarque. Donc, c'est tout ce qui concerne compétences et mesures. J'ai beaucoup entendu dans votre intervention les termes de descripteurs, ce qu'il est important d'avoir des descripteurs précis, systématiques. Je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment... vouloir décrire précisément des choses qui sont par nature totalement variables et floues. La compétence, de nouveau, c'est pas quelque chose de personnel. Parce qu'on a tous fait l'expérience en tant que locuteur alloglotte que tout dépend avec qui on parle, que tout dépend qu'est-ce qu'on fait. C'est incroyable ce qu'on peut plus ou moins bien parler la langue étrangère. Donc, se dire qu'on arrive à évaluer une compétence vraiment avec un thermomètre qui serait dit, ben voilà, je certifie que il y a du socle commun chez cet enfant, qu'il a bien atteint ce niveau-là. Bon, pour moi, ça répond aux besoins de l'institution, ça répond à la grande mode aujourd'hui du pilotage. Il faut pouvoir piloter avec des indicateurs PISA, HRMOS, tout ça. Enfin, non, vous n'avez pas HRMOS, vous mettez PISA. Ça répond à ce besoin-là. Mais je pense que vraiment, il y a un peu du fantasme de nouveau. Hein. Autant on a déplacé les fantasmes, avant les fantasmes étaient sur l'homogénéité de la langue, maintenant ça vient sur la possibilité de mesurer systématiquement. Bon, je fais un peu ma caractérielle, mais la mesure, j'en ai ras-le-bol. Voilà. De devoir chercher des indicateurs, de devoir réfléchir sur quel test il faut faire. Pour la... Franchement, quel temps perdu! Quel temps perdu. Voilà. Alors, comme piste de recherche, je trouverais drôlement intéressant d'aller justement faire ces comparaisons dans des écoles maternelles, aller regarder, filmer une école maternelle en Catalogne sur une je pense que dans toutes les écoles maternelles européennes, on doit faire des quad neuf le lundi matin, où on raconte son week-end. Et là, je pense que ce serait très intéressant de voir justement comment le langage est traité en action, en acte. Et puis de voir, c'est dans des moments comme ça qu'on construit le rapport aux langues des enfants et que se manifeste à la fois la tolérance à la variation au plurilinguisme dans la manière dont les maîtresses réagissent à ce que les élèves disent. Et donc, en fait, ça, la possibilité de faire une école véritablement ouverte au plurilinguisme et pour les langues. Voilà, je vous remercie.